Vous écoutez
RMC.
Bon réveil et très bon début de week-end. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure du journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. La flamme olympique part en bateau ce matin, direction la France. Nous serons en direct d'Athènes au début de ce journal. Évacuation dans le calme de Sciences Po hier soir. Des étudiants occupaient l'université parisienne et demandaient à la direction de se positionner sur la situation à Gaza. Un soutien record au rugby féminin pour France-Angleterre. Près de 27 000 personnes sont attendues en fin d'après-midi au stade Chabon Delmas à Bordeaux.
Et puis la fête des librairies indépendantes aujourd'hui, les jeunes passent de plus en plus de temps derrière leur écran, de moins en moins derrière un livre. Comment donner le goût de la lecture? Est-ce peine perdue? C'est à vous de nous dire ce matin au 32-16. Rendez-vous à 7h10.
Direction la Grèce pour commencer. Oui, départ prévu ce matin pour la flamme olympique à bord du mythique Belém. Julien Richard, vous êtes au Pirée, le port d'Athènes pour RMC.
Oui, la flamme a en fait passé sa première nuit sur l'ol français, puisqu'après la cérémonie hier soir, elle a dormi dans l'ambassade de France à Athènes, un peu avant 10h tout à l'heure. Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation, montra donc cette flamme olympique à bord du Belém, le plus vieux voilier français en activité, un des trois mâts, un trois mâts qui est finalement aussi vieux que les jeux modernes, 127 ans, qui transportait des fèves de cacao à la base depuis le Brésil. Cette fois, c'est une cargaison très précieuse, cette flamme olympique placée dans une petite lanterne sécurisée, couleur cuivre, brillant, frappée du logo Paris 2024, un passager très VIP et sous haute surveillance. Trois gardiens de la flamme veilleront à chaque instant sur le feu. Un bâtiment de la Marine nationale accompagnera également le Belém sur les 12 jours de traversée de la Méditerranée avec une arrivée le 8 mai à Marseille en début de soirée.
Tout un programme et on en parlera bien sûr à 8h40 avec notre invitée, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. À Paris, l'université Sciences Po a été évacuée dans le calme hier soir. Elle était occupée par quelques centaines d'étudiants. Ils demandaient à leur université de se positionner sur les actions d'Israël à Gaza. Finalement, un accord a été trouvé entre les étudiants et la direction, Nicolas Traîneau.
Oui, la direction s'engage d'ici jeudi à organiser le débat interne voulu par le comité Palestine des étudiants, sorte d'assemblée générale ouverte à toutes les communautés de Sciences Po, le comité qui demande à la direction de se positionner clairement pour un cessez-le-feu à Gaza. Les contours de ce rendez-vous seront définis lundi et le communiqué précise que toutes les questions pourront être posées, notamment celles sur les partenariats de l'école. Les étudiants mobilisés veulent que cessent les partenariats noués avec des universités ou des organisations complices de violations du droit international. Enfin, la direction suspend les procédures disciplinaires contre des manifestants, mais uniquement celles lancées depuis 10 jours. Les procédures engagées donc avant le 17 avril ne sont pas abandonnées pour le moment, notamment celles concernant l'interdiction d'accès à un amphithéâtre d'une étudiante juive lors d'une manifestation pour la Palestine libre le 12 mars.
À Gaza, justement, le Hamas a indiqué étudier hier une contre-proposition israélienne sur une possible trêve dans les combats à Gaza, mais aussi sur la libération d'otages. Le 13 avril dernier, le Hamas avait proposé une trêve à Israël via des médiateurs, en insistant notamment sur un cessez-le-feu permanent.
RMC 7h03, l'heure était au soulagement hier soir au ministère des Finances.
Oui, les notes souveraines de la France n'ont pas été changées par les agences de notation Fitch et Moody's. Ces notes jugent les risques pris par des investisseurs s'ils décident d'acheter de la dette française. Alors que les finances publiques avaient dérapé, c'est donc le soulagement pour Louis Marguerite, député Renaissance et membre de la Commission des Finances.
C'est une décision qui va dans le bon sens, mais il faut rester évidemment prudent et très concentré sur l'objectif de réduction des dépenses publiques. Bon, voilà, les agences considèrent que la trajectoire reste crédible, mais cela prouve que notre stratégie, même avec le redressement de la correction du déficit, est la bonne, c'est-à-dire celle qui consiste à tout faire pour atteindre le plein emploi, la croissance et puis avoir une trajectoire sérieuse de réduction des dépenses publiques.
Aux européennes maintenant, Sarah Aknafo devient candidate sur la liste Reconquête de Marion Maréchal Le Pen. La compagne d'Éric Zemmour, qui travaille déjà pour le parti, a officialisé sa candidature hier pour les élections du 9 juin prochain. Elle sera en troisième position sur la liste.
Jusqu'à 27 000 tziganes vont se rassembler aujourd'hui dans le Loiret.
Dans la petite commune de Nevoy, près de Gien, c'est là que se tient ce rassemblement évangélique qui doit se dérouler jusqu'au 5 mai. Une tradition qui a lieu une à deux fois par an depuis 25 ans. 40 000 personnes étaient venues venue l'année dernière. Face à ce succès, une jauge a été installée cette année. Un événement que les pèlerins ne rateraient pour rien au monde. Inès Zegloug était sur place pour RMC.
Là, c'est chez moi. Moi et mon mari dans celle-ci caravane. Et en face, c'est ma fille et mon garçon.
Au milieu du terrain vague, Maggie et sa copine Mandy s'installent tous les ans sur la même parcelle de gazon.
On a l'habitude, depuis qu'on est né, c'est comme ça.
Malheureusement, on ne se voit pas souvent parce qu'elle allait de Carcassonne. Moi, je suis de la Mayenne. Donc, on se voit très peu. Et c'est le moment de nous voir, ici. Quoi.
Et pendant 7 jours, ils partagent tout. Nourriture, eau, bonbonnes de gaz. Un moment de communion, donc, et surtout de religion, rappelle Mario.
Vous allez pouvoir apercevoir les mâts du chapiteau.
Puisque sous cet immense chapiteau qui trône au centre du campement de 90 hectares.
C'est là où il y a tous les offices. Donc le programme, c'est le matin à 8h, réunion de prière, 10h à midi, étude biblique. C'est la grande réunion pour tout le monde.
Un programme qui attire de plus en plus de pèlerins.
D'année en année, ça monte crescendo. C'est des pays européens qui viennent participer.
Il n'y a pas que des Français.
Il n'y a pas que des Français. Des Anglais, des Irlandais, des Belges, des Allemands, des Espagnols. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi.
Et cette année, ce sont 27 000 croyants qui sont attendus sur site.
7h05 sur RMC, il était accusé d'avoir violemment frappé un brancardier.
C'était à Châlons en Vendée le 6 avril dernier. Ce jeune homme de 23 ans avait donc frappé un brancardier devant les urgences. Eh bien, il était condamné hier à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Vous avez peut-être passé plusieurs heures dans le train hier soir. De nombreux retards ont affecté la circulation sur la LGV, la ligne à grande vitesse entre Paris, l'Est de la France et l'Allemagne. La faute à une rupture de caténaire qui a obligé les trains à prendre un itinéraire plus lent.
Des problèmes de circulation, il y en a aussi sur la 13.
Rappelez-vous, c'est à cause de ces fissures géantes qui ont causé la fermeture d'une partie de l'autoroute il y a une dizaine de jours. Une partie entre Vaucresson et la porte Saint-Cloud à Paris. L'autoroute ne va pas réouvrir comme prévu le 1er mai. Des mouvements du sol ont été détectés, retardant ainsi les travaux. Il n'y a pas de date annoncée de réouverture pour le moment. En rugby, un match aux allures de finale. Aujourd'hui à 17h45 à Bordeaux, les Françaises affrontent les Anglaises pour leur dernier match du tournoi des Six Nations. Les deux équipes ont gagné tous leurs matchs jusqu'ici. Celle qui s'imposera au stade Chaban-Delmas remportera donc le Grand Chelem. Et pour ce match décisif, les joueuses pourront compter sur le soutien des supporters. Plus de 27 000 personnes sont attendues. C'est un record en France et ça compte pour l'ouvreuse tricolore Lina Kerroy.
Quand c'est en France, c'est beaucoup plus facile. On sait que le public est derrière nous et qui nous pousse, qui nous aide. C'est un peu plus facile à préparer que si on allait le jouer en Angleterre. Ça va forcément nous aider. Ça fait plaisir de voir que les gens ils attendent le match, qu'il va y avoir du monde, qu'on va être soutenu. Et ça montre que le rugby féminin, il évolue en France et qu'il est de plus en plus regardé. Donc c'est cool.
Ce samedi, c'est aussi la 22e journée du top 14. Toulouse affronte le Racing à 15h, puis à 17h, Montpellier reçoit à Perpignan. Lyon joue contre Pau. En foot, le Paris Saint-Germain affronte le Havre ce soir à 21h au Parc des Princes pour la 31e journée de Ligue 1.
Et pourrait même, dès ce soir, être sacré.
Champion
de France. Nous allons suivre ça, bien sûr, sur RMC, la radio de toutes vos émissions oui, et vos émotions sportives, les deux. Ça marche, les deux, mais bien sûr. Merci beaucoup, Solène Gardré. On se retrouve à 8h tout à l'heure pour un nouveau journal. Il y aura encore plus de monde que maintenant. Hein. Vous le savez. Hein.
Oui.
Plus on avance, plus il y a de monde à écouter RMC. Évidemment, tout le monde se réveille. Merci à ceux qui sont avec nous depuis 6h30, à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Tiens, Mimi nous fait un petit bonjour sur l'appli RMC. Et Emmanuel est avec nous au 32-16. On adore se réveiller avec vous le matin. Bonjour,
bonjour Emmanuel.
Bonjour la compagnie, ça va les enfants?
Oh, que ça va Emmanuel. Oui, les enfants, alors vous nous avez eu très tôt quoi Emmanuel. Hein.
Ah bah on est dans les mêmes tranches d'âge donc ça va le faire.
Ouais, je crois Emmanuel. Toujours les Côtes d'Armor, infirmier libéral là-bas?
C'est ça.
Déjà sur la route pour aller travailler?
Au retour au boulot après 3 jours à Toulouse où j'ai eu la chance d'être invité pour inaugurer le tout premier centre de simulation par tous les sens cognitifs, donc que
j'ai
ce
vu
soit
ça,
par
Emmanuel.
Les...
Impressionnant, hein, ce centre à Toulouse. Ce sera à destination de tous les soignants, si j'ai bien compris, pour venir s'entraîner en cas d'attentat chimique. Expliquez-nous.
Alors c'est pour tout ce qui est médecine de cadavre. Alors ça parlait de l'urgence basique jusqu'à les choses les plus graves, les attentats et autres événements. Qui peuvent malheureusement nous faire intervenir en tant que soignants et non-soignants, puisque ça va être ouvert aux militaires, ça va être ouvert aux policiers, gendarmes, parce qu'on va pouvoir faire des scénarios complètement immersifs, donc on va pouvoir...
Et très réaliste
réaliste, ouais. On peut faire de la neige jusqu'à des chaleurs extrêmes, avec de la tempête de vent, s'il faut, et autres.
Et alors, vos impressions?
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal avec ils nous ont refait un petit peu l'accident d'AZF. Ouais. En réalité virtuelle, ouais, ça y va.
Ouais.
On a la sensation de chaud, les odeurs et puis
tout ça avec la réalité virtuelle.
En réalité virtuelle, plus ça utilise toute la cinémathèque qu'on peut avoir en France pour justement avoir l'impression d'être complètement immergé dans la situation.
C'est fou.
Et donc de vous préparer à avoir les bons gestes dans ces cas-là, Emmanuel.
C'est ça, que ce soit un réflexe, un automatisme dans les soins pour avoir le geste juste au moment voulu.
Toulouse, plus que jamais, ville de l'innovation, on le voit encore. Bah, Emmanuel, merci de votre petit bonjour et de votre témoignage. Ce qui est pas mal en plus, c'est que pendant 3 jours à Toulouse, vous avez pu voir le soleil, au moins 3 jours dans l'année. Là. Ça vous change des Côtes d'Armor.
Ouais, mais c'est bien, il y a soleil ce matin, ça va le faire.
Et voilà. Profitez-en pour les 12 minutes de la journée.
Oh, vous exagérez.
Merci, c'est gentil.
Et ça bonne tournée, Emmanuel.
Salut, Emmanuel.
Embrassez bien tous vos patients de notre part. Ouais. Rejoignez-nous, le 32-16 est ouvert, c'est toujours un plaisir. Il est 7h10.
À suivre dans la matinale week-end.
Sciences Po n'est plus l'élite universitaire française. Ce qui s'y passe n'est pas un exemple. Après le blocage hier par des étudiants pro-Palestine, réaction ce matin sur RMC de Michel Deneken. Il est le président de l'université de Strasbourg. Il appelle au calme. Vous l'entendrez tout à l'heure, notre invité, à 7h40.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. On parle d'un tout nouveau réseau social
qui cartonne aux États-Unis. Il s'appelle AirChat et il est basé sur la voix.
Eh bien, ça ne va pas arranger nos affaires, ce nouveau réseau social, parce qu'on va parler des livres. Les jeunes passent trop de temps sur les réseaux sociaux et sur les smartphones, pas assez à lire. Est-ce que c'est peine perdue de leur donner envie de lire? C'est à vous de nous dire et c'est dans 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, bon réveil, c'est samedi, 7h12.
RMC.
À vous de nous dire.
Bonjour Kevin Gasser.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Comme tous les jours, nous vous consultons et on décrypte ensemble une question d'actualité sur notre compte Twitter. On vous interroge ce matin à l'occasion de la fête de la librairie indépendante. Donner envie de lire à nos enfants. Est-ce peine perdue à l'heure des réseaux sociaux?
Oui, c'est la question que nous vous posons ce matin parce que les Français lisent de moins en moins, les jeunes surtout. En fait, selon la dernière étude du Centre National du Livre qui porte sur les 7-19 ans, un jeune sur 5 ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. Pire, quand on cible les jeunes adultes de 16 à 19 ans, là c'est 38% qui ne lisent jamais pendant leur temps libre. Et même plus généralement, c'est le temps consacré à la lecture qui chute. Les jeunes lisent en moyenne 19 minutes par jour, c'est 4 minutes de moins qu'en 2022.
Alors ils ont moins la tête dans les livres et plus les yeux rivés sur les écrans, je présume.
Oui, toujours selon la même enquête, les jeunes passent en moyenne 3h11 par jour sur leurs écrans et c'est 5h10 même pour les 16-19 ans. Et bien sûr, ce sont des mauvaises habitudes qu'on garde plus tard, une fois adulte. Je ne sais pas vous, Peggy, Mathieu, mais même quand j'ai un livre en main, moi, difficile de résister à la tentation de jeter un œil sur son téléphone.
Bah ouais.
Et ça, on l'observe de plus en plus. Près d'un jeune lecteur sur deux fait autre chose pendant ses lectures. Et ce autre chose, vous l'imaginez, c'est chatter avec des copains, regarder une vidéo, jouer à des jeux, bref, les écrans, encore eux.
Ouais, mais sauf que le désintérêt des jeunes pour la lecture, c'est seulement la faute aux écrans, ce serait un peu trop facile.
Alors ça y contribue grandement, du moins, avec le numérique, les réseaux sociaux, notre capacité d'attention et de concentration diminue, ce qui est évidemment essentiel pour se plonger dans un livre. Mais il y a aussi des problèmes dans les méthodes d'apprentissage de la lecture à l'école. À chaque enquête PISA, la France dégringole. Vous savez, c'est cette étude internationale dans le domaine de l'éducation. Eh bien, le niveau de performance en lecture des élèves baisse systématiquement depuis 2012. À l'école, on apprend à déchiffrer les textes, mais pas à les lire vraiment, à les comprendre. C'est ce que dit le linguiste Alain Bentolila, qui sera en direct sur notre antenne à 8h10. Et forcément, quand on ne comprend pas ce qu'on lit, on abandonne beaucoup plus vite la lecture et surtout, on n'a pas envie d'y revenir.
Alors, à vous de nous dire, donner envie de lire à nos enfants, est-ce peine perdue à l'heure des réseaux sociaux?
Eh bien, vous avez répondu oui à plus de 63% à notre consultation sur Twitter.
Merci beaucoup Kevin, vous poursuivez vos votes bien sûr sur notre compte Twitter et vos appels au 32-16. Ils sont nombreux ce matin, ça me fait bien plaisir sur un sujet comme la lecture. On va commencer en Seine-et-Marne chez Zaya. Bonjour Zaya.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 3 enfants, Zaya.
Oui.
Ils ont
oui.
Quel âge?
Alors 8 ans, 11 ans et 12 ans, bientôt 13.
Est-ce qu'ils aiment lire?
J'en ai une qui adore lire, j'en ai un qui déteste lire, et la troisième, Elle essaie de se calquer sur sa sœur qui adore lire, mais c'est dur.
Un peu entre les deux, quoi. Donc, vous avez tout le panel.
Alors, oui.
Comment vous expliquez la différence, en fait? Parce que j'imagine que vous les éduquez de la même façon.
Exactement de la même façon. Sauf que l'attirance vers les téléphones portables, elle ne se fait pas de la même façon.
Ah oui. Entre la fille et le garçon, ou parce que le portable a été plus vite dans la vie de l'un que de l'autre?
Non, de la même manière, sauf que les jeux vidéo.
Ah. Et c'est vous qui leur avez donné cette envie de lire, en fait, ou
J'ai lu. C'est de la lutte quotidienne.
Expliquez-nous comment vous faites.
Je supprime le portable.
Ah oui.
Je supprime, j'ai pas le choix, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est justement s'ils ont le portable à côté, ils ne peuvent pas se concentrer. Donc, comme ils ne peuvent pas se concentrer parce qu'ils sont constamment en contact avec leurs copains, copines sur les réseaux sociaux, même si les miens, je leur interdis, ils n'ont pas accès à TikTok, Instagram, mais ils ont WhatsApp, par exemple, et ils reçoivent un nombre de notifications énorme.
C'est-à-dire même celle qui adore lire, elle a toujours œil sur son téléphone en même temps.
S'ils ont le téléphone à côté en pleine lecture, ils ne disent pas.
Ouais. Donc vous imposez, vous instaurez des moments de lecture à la maison?
Je les emmène à la bibliothèque dès leur plus jeune âge. Et ensuite, le mercredi, je suis à la maison ou le week-end, je leur instaure des temps calmes. Ils prennent un livre, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone.
Et c'est des moments où vous lisez, vous aussi, pendant ce temps-là?
Pas forcément.
Parce que c'est aussi ce qui se dit beaucoup.
Si l'exemple.
Les parents sont toujours en train de lire ou pour se détendre prennent un bouquin, évidemment, les enfants vont faire un peu la même chose. D'ailleurs, on a ce message de Jean-Pierre ce matin. Vous l'avez lu, Peggy, sur l'appli RMC ou pas? Moi qui n'étais pas du tout livre, depuis que j'ai ma fille qui sait lire, je me suis mis à lire avec elle. Et du coup, on se fait des moments privilégiés. On lit chacun un chapitre. C'est cool. Et comme ça, on n'est pas devant les écrans. Michael est aussi avec nous depuis la Seine-Maritime.
Bonjour, Michael.
Bonjour, Michael.
Bonjour.
Vous avez des enfants, vous aussi?
Oui, deux, un de 18 et un de 14 ans.
Et vous, vous dites, c'est peine perdue, on n'y arrivera pas?
Ah non, je dis que ça, on va y arriver.
Ah. Alors justement, expliquez-nous.
Non, moi je me dis qu'on va y arriver et qu'il faut donner aux enfants le goût de lire dès le plus jeune âge. Moi, dès qu'il était petit, je leur lisais des histoires tous les soirs. Ça demande effectivement un peu de temps et c'est aussi à nous, adultes, de poser notre portable et de lire avec eux. Donc on fait ça sur la première partie, je dirais, dans le courant de la primaire, et du plus jeune âge du courant de la primaire. Après, ils commencent à vouloir lire tout seul, et après, il faut les laisser lire ce qu'ils ont envie. Vous vouliez effectivement faire lire un Zola à un élève de 6e, bon, il est trop obligé.
Et puis, quand le Zola s'appelle l'Assommoir, je vous confirme que ça porte bien son nom. Hein.
Et les deux lisent aujourd'hui?
Oui, ils lisent des livres aujourd'hui. Théo, mon grand de 18 ans, est à la Sorbonne, tout se passe très bien, il a lu énormément de mangas, il a aussi beaucoup d'écrans et il a lu à travers les écrans. Et je pense que c'est là où on se trompe, c'est là où on se dit, nous adultes, j'entendais au début, nous adultes, on a du mal à se concentrer sur un livre et à poser notre téléphone. Et pourquoi? Parce que peut-être que le livre ne correspond pas à ce qu'on avait envie de lire. Mmh. Et des fois, on le fait ou par obligation de travail ou parce qu'on par recommandation, et finalement, ça ne correspond pas.
C'est là que c'est moi, très intéressant, Michael.
Dans les mains, je pose mon livre.
En fait, oui, Zaya, je vous entends, vous vouliez réagir.
Oui. Quand ils ont appris à aimer lire, le portable ne pose plus problème. Mais quand ils sont jeunes et qui comprennent pas encore toutes les lectures ou ce qu'ils aiment lire et qui se cherchent encore, si on leur laisse le portable à côté, ils feront pas cet effort.
Bien sûr, mais c'est là que c'est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, hein, d'ailleurs Zaya et Michael, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise lecture. On peut commencer à lire même l'âne trop, pas de patrouille. Peut-être que même nous parents, on trouve ça ridicule et que au secours, il faut surtout pas lire ça au début et on n'arrivera jamais ensuite à lire des grands romans comme ceux de Zola. Sauf que si, et même d'ailleurs si on lit sur un autre support. Michael, vous parliez de pouvoir lire aussi de temps en temps sur le téléphone portable. Pourquoi pas? Parce que c'est ce que disent les études. il y a ce qu'on lit et comment on le lit. Notre capacité de concentration, d'absorption de la lecture, qui va faire que petit à petit, on lit de plus en plus long, de plus en plus lourd et des romans de plus en plus difficiles à décrypter. Continuez vos témoignages. Le 32-16 est ouvert. La fête de la librairie indépendante à l'honneur ce matin sur RMC. Nous serons avec un linguiste tout à l'heure à 8h10 qui nous dira aussi comment redonner goût à la lecture aux enfants qui aiment un peu trop le portable. Ça, c'est la faute d'Anthony Morel, vous le savez. Le monsieur nouvelle technologie, avec ses réseaux sociaux, bah, il arrive dans une minute, il va se faire engueuler.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
7h22.
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel.
Il est là. Bonjour Anthony.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
C'est le réseau social qui cartonne en ce moment aux États-Unis et il s'appelle AirChat, centré autour non plus du texte, des photos, mais de la voix.
Voilà, AirChat se présente comme un talkie-walkie social. Il n'y a pas de clavier, on ne peut rien écrire avec ses doigts, on ne peut que parler et envoyer des messages vocaux. Vous appuyez sur un petit micro, votre message est instantanément publié et il peut être soit écouté par les gens qui suivent votre fil d'actualité sous forme de notes vocales. Alors on peut les accélérer hein, parce que c'est un peu fastidieux sinon, ou alors on peut le lire via un fil qui ressemble à celui de Twitter. Ceux qui veulent répondre le font de la même manière. C'est une intelligence artificielle qui gère la transcription de l'audio vers le texte avec une finesse absolument remarquable. C'est très spectaculaire. Ah ouais, c'est-à-dire que même si vous doutez, même si vous vous reprenez, même si vous utilisez des noms propres compliqués,
même avec les accents, les expressions régionales,
ça fonctionne très bien. Alors ça fonctionne surtout très bien en anglais pour l'instant. En français, ça fonctionne aussi, ça va s'améliorer, mais le résultat est quand même assez, assez bluffant. Et le concept, qui peut sembler étonnant, bah, connaît un très très gros succès. AirChat s'est propulsé dans le top des applications les plus téléchargées. De loin, ça fait un petit peu penser à un certain Clubhouse. Vous vous souvenez de Clubhouse? C'était un réseau social vocal, il y a quelques années, qui a connu un gros succès avant de disparaître un petit peu. Sauf que là, c'était plutôt des débats, des longues discussions. Là, c'est vous publiez un message, et puis une autre personne vous répond avec son propre message de manière asynchrone, comme on dit.
Vous dites que ça marche déjà en français, donc ça va débarquer en France.
Ça débarque. On peut déjà le télécharger en France, vous pouvez commencer à l'utiliser, mais moi j'ai déjà fait.
Clubhouse, il y avait eu un grand succès, ça a disparu, mais on comprend pourquoi, parce que là je vous écoute avec attention, moi je fais déjà ça sur WhatsApp, tout le monde fait ça, on s'envoie des vocaux.
Oui, c'est vrai.
Quel est l'intérêt alors qu'on a déjà TikTok, Instagram et les autres?
Alors c'est vrai, la différence avec WhatsApp, c'est que là vous allez quand même pouvoir publier pour tout le monde, c'est-à-dire que vous avez un public qui n'est pas juste celui de WhatsApp où vous envoyez un message à quelqu'un. Et ils s'inscrivent à l'inverse de tous les réseaux sociaux traditionnels de Instagram, de Twitter. Ces créateurs estiment que cette façon de communiquer, la voix, hein, permet de générer des conversations qui sont en moyenne moins toxiques que ce qu'on peut voir par écrit sur Twitter, par exemple. Le fait de devoir réfléchir un minimum à la façon dont on construit sa phrase, on s'y reprend à plusieurs fois, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler littéralement, et puis le fait de pouvoir écouter des messages plutôt que les lire, ça entraîne aussi moins d'erreurs de compréhension. Il n'y a pas besoin de saupoudrer ces messages d'emoji pour faire comprendre que votre message est humoristique ou sarcastique, par exemple. Donc au lieu des réseaux sociaux narcissiques ou haineux, l'idée c'est de retrouver une forme de convivialité, un peu comme un repas ou un dîner entre amis virtuels, une sorte d'anti-Twitter. Bon, après, c'est peut-être un peu idéaliste, hein, un message d'insulte, qu'il soit parlé qu'il soit écrit, si vous voulez, c'est un peu
mais
la même chose.
Peut-être que les belles voix de radio comme la vôtre auront leur petit succès.
Oh, vous êtes gentil avec moi.
Non, mais c'est vrai qu'elle est belle, votre voix, Anthony. Bon, en tout cas, il y a un effet de mode, mais est-ce que ça va durer?
On n'en sait rien. C'est un peu le problème avec ces réseaux sociaux qui sortent de nulle part et qui ont une trajectoire fulgurante, c'est qu'ils peuvent très facilement être copiés par les gros. C'est-à-dire que si demain Instagram ou Twitter se dit « Ah oui, c'est pas mal cette petite fonctionnalité, bon, on va faire la même chose », ils ajoutent un bouton et puis c'est terminé. À moins de qu'on ne croie au succès durable de ces réseaux un petit peu moins antisociaux, si l'on peut dire, qui sont plus centrés sur le réel. La parole avec AirChat, Strava pour les sportifs, Goodreads pour les fans de lecture ou encore Duolingo pour apprendre les langues étrangères.
Merci beaucoup Anthony, il y a au moins un truc pour les fans de lecture, ça nous rassure ce matin, c'est déjà demain. À retrouver en podcast sur rmc.fr bien sûr, 7h25.
RMC, la matinale week-end.
Serroussi n'a pas tout compris.
Eh ben oui, c'est l'heure de commencer le week-end par un sourire avec Vincent Serroussi.
Qui n'a pas compris pourquoi Emmanuel Macron a joué au foot cette semaine.
C'est obligé d'en parler, on a un président de la République.
Et en même temps,
un footballeur, voilà, les deux, bah, après la boxe, hein, maintenant le foot, c'est plus l'Elysée, c'est Fitness Park. Hein. Bientôt on va le voir faire du saut à la perche. Hein. Il va venir pour les JO en aviron. Bon, après, il va être bon, il a l'habitude de ramer. Parce que non, mais le foot, c'est pas trop ça. Hein. Le PSG a fait une offre de transfert de Macron au PSG. 1 euro. Voilà, 1 euro. C'est plus M claqué, c'est plutôt Mbappé, là. Compliqué.
Vincent, vous êtes quand même dur. Le président a marqué sur pénalty.
Évidemment, le gardien n'a pas bougé. Vous êtes marrant. Oui, bah oui. Et en même temps, c'est normal. T'arrêtes un pénalty de Macron, tu te prends un contrôle fiscal dans la semaine, hein, directement. Après, je préfère que ce soit Macron qui joue au foot que les autres ministres du gouvernement. T'imagines ce que ça donnerait? Et nous accueillons Bruno Le Maire, arbitre de touche, il sert à rien. Darmanin, arbitre général, il met des cartons rouges pour expulser tout le monde. Gabriel Attal, lui c'est un des gosses là, qui tient la main des joueurs de foot. Et enfin Christophe Béchu, ministre de l'écologie, bah, lui c'est un réserviste, personne ne le connaît. Voilà.
Certains ont quand même dit que le président avait bien joué. Hein.
Oui, bah, Marcel Desailly, quand on lui a demandé qui était le meilleur joueur, il a répondu le président. Voilà, si vous voulez le nom du futur ministre des Sports, vous l'avez.
Vincent Serroussi, que vous retrouvez tous les jours 14h50 dans Estelle Midi sur RMC. Pour le moment, la ministre des Sports, c'est Amélie Oudéa-Castéra, qui est d'ailleurs notre invitée ce matin tout à l'heure. Ne manquez pas le rendez-vous, 8h40, depuis Athènes, où la flamme olympique officiellement française depuis hier soir partira à bord du Belém direction Marseille. En attendant, vos infos de 7h30 arrivent. Temps bien agité et pluvieux à l'ouest, Peggy.
Pluvieux et orageux, puisque 8 départements du sud-ouest sont en vigilance orange aux orages entre la Charente, le Lot et les Landes. Donc agité sur l'ouest et le nord, avec des averses soutenues déjà ce matin entre les Charentes et les Pays de la Loire, qui vont se décaler au fil des heures entre l'Île-de-France, la frontière belge. Entre le sud-ouest et la Champagne, on a quelques averses qui vont s'intensifier dans l'après-midi. De la neige sur les Pyrénées et les Alpes frontalières. Beaucoup de vent entre la Méditerranée et le Massif central, un vent qui va se renforcé dans la journée jusqu'à 100 km par heure, vent d'autant. Et donc l'après-midi, cet épisode orageux avec des orages localement violents, de fortes pluies, de fortes rafales de vent entre la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, le centre, le Massif central, l'Île-de-France jusqu'aux Ardennes. C'est un temps plus sec et plus lumineux sur l'est du pays et notamment sur la région PACA. Tout ça sous des températures qui sont en hausse, souvent proches des normales, de 13 à 16 degrés sur le nord-ouest cet après-midi, jusqu'à 20 dans le sud et dans l'est.
Votre rendez-vous sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr.
Samedi 27 avril, bon réveil à vous.
Vous êtes bien sur RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Anaïs Castagna. Bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Fin du blocage à Sciences Po Paris, un accord a été trouvé. Le verdict des agences Fitch et Moody's est tombé. La note de la France n'est pas dégradée. Et puis le roi Charles III va reprendre des activités officielles.
D'abord, le blocage de Sciences Po Paris, levé depuis hier soir aux alentours de 21h.
Alors qu'un accord entre les responsables de l'établissement et les étudiants mobilisés pour la cause palestinienne a été trouvé, la direction s'engage à organiser un débat interne d'ici jeudi. Toutes les questions pourront être posées, notamment celles sur les partenariats de l'école. La direction suspend aussi des procédures disciplinaires lancées contre des manifestants dont la mobilisation fait clairement débat. Vous vous êtes rendu hier devant l'établissement, Ameline Lafchin.
Devant les locaux de Sciences Po, de jeunes manifestants, pancartes et drapeaux palestiniens en main. Au milieu de la foule, Mano, étudiant de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye.
Je pense qu'ici, c'est particulièrement symbolique. Les universités, c'est vraiment là où il y a le débat étudiant, les réflexions. Moi, je pense que c'est très important d'être justement devant une université plutôt que dans un autre lieu à Paris.
De l'autre côté de la rue, des manifestants pro-israéliens.
Je suis en colère parce qu'ils ont enlevé le drapeau de la France sur la devanture de Sciences Po.
Maxime aussi étudie ici et dénonce un climat délétère dans les salles de classe. Pour lui, le conflit israélo-palestinien n'a pas sa place ici.
Aujourd'hui, le discours qu'on porte, c'est apaisement de la situation. On arrête d'importer un conflit dans les universités et on débat sereinement dans le cadre démocratique.
Victor, lui, est là car il devait participer à une conférence finalement annulée. Et même s'il comprend les revendications des manifestants, pour lui, bloquer l'établissement n'est pas la solution.
Le droit à manifester, c'est fondamental. Mais il y a aussi le droit à l'éducation. Et je vois mal en quoi bloquer une école va forcément aider à la prise de conscience ou à quoi que ce soit d'autre.
L'école a été débloquée dans la soirée après la publication d'un communiqué de l'établissement.
Sachez que le Hamas dit étudier une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats à Gaza et la libération d'otages.
Les agences de notation Fitch et Moody's ont rendu leur avis sur la note de la dette de la France.
Alors que le dérapage des finances publiques laissait craindre le pire, finalement les notes n'ont pas changé. Le gouvernement échappe à la sanction de Fitch et de Moody's. Cyprien Pézeril, c'est une bonne nouvelle pour l'exécutif.
Alors que certains dans la majorité craignaient de passer un week-end particulièrement désagréable, c'est le soulagement. Dans un communiqué publié dès l'annonce des résultats, Bruno Le Maire dit prendre note des décisions de Fitch et Moody's, le ministre de l'économie qui rappelle le cap d'un déficit public sous les 3% en 2027. Pour cela, dit-il encore, il faut redoubler de détermination, comprendre, poursuivre dans la droite ligne des 20 milliards d'économies déjà annoncées. Des notations qui évitent au gouvernement de subir les attaques des oppositions. La droite l'accusait le mois dernier de mener la France sur la même trajectoire que la Grèce. Pourtant, dans l'exécutif, pas de triomphalisme. Une autre notation est bien plus redoutée, celle de l'agence Standard & Poor's, attendue le 31 mai, quelques jours avant les élections européennes.
Emmanuel Macron veut lancer une troisième convention citoyenne en 2024 après celle sur le climat et sur la fin de vie. C'est ce qu'il a annoncé hier lors d'un échange avec les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie au Conseil économique, social et environnemental. Et puis Sarah Knafo, compagne et conseillère d'Éric Zemmour, troisième position sur la liste de reconquête menée par Marion Maréchal Le Pen aux européennes du 9 juin. Elle l'annonce dans le Figaro. Après une première campagne de traitement à l'automne 2023, le Befortus, qui protège les bébés du virus à l'origine de la bronchiolite, a permis d'éviter 5800 hospitalisations. C'est ce qu'indiquent deux études publiées hier par l'Institut Pasteur et Santé publique France. Une première vague de traitement très encourageante, Pierre Bourgès.
Oui, avec ce traitement par injection, le risque de forme grave de la bronchiolite est réduit de près de 80% chez les nourrissons, selon l'étude. Les symptômes les plus graves sont rares, mais peuvent être sévères, notamment chez les bébés de moins de 2 mois, entraînant des infections pulmonaires et des difficultés respiratoires. C'est donc une bonne nouvelle pour Jérémy Docao, président du SNPEH, qui représente les pédiatres du milieu hospitalier.
Ça va être utile pour les enfants. Pour eux, ça va être potentiellement éviter une hospitalisation pour une bronchiolite. Ça va aussi ralentir la pression que ça peut avoir sur les urgences pédiatriques l'hiver. S'il y a moins d'hospitalisation, on a aussi moins de temps perdu à chercher une place d'hospitalisation.
Parce que l'étude de l'Institut Pasteur indique également que 5800 cas d'hospitalisation ont pu être évités grâce au traitement, alors que 35 000 nourrissons de moins d'1 an sont hospitalisés chaque hiver. Le traitement permettrait donc de désengorger les hôpitaux déjà saturés à cette période de l'année. En 2024, le ministère de la Santé se prépare à sécuriser assez de doses pour immuniser 600 000 bébés, 2 fois plus que l'année dernière.
RMC 7h35 et on en vient à cette bonne nouvelle du côté de la royauté britannique.
Oui, on l'a appris hier pour la première fois depuis l'annonce de son cancer en février dernier. Le roi Charles III va reprendre ses activités publiques dès la semaine prochaine, Anna Jojard.
Et oui, depuis l'annonce de son cancer, le 5 février dernier, le souverain avait annulé tous ses engagements publics officiels pour se reposer et guérir. Et plus de 2 mois plus tard, les premiers résultats sont encourageants. Les médecins du roi se disent même optimistes, mais pas question pour autant d'arrêter les traitements. Ce sera donc un retour à la vie publique en douceur. Ces apparitions seront décidées au cas par cas selon les recommandations des médecins. Mais 2 dates sont déjà à l'agenda de Charles III. Mardi, aux côtés de la reine pour une visite d'un centre de traitement du cancer et l'accueil de l'empereur et l'impératrice du Japon en juin. En revanche, rien n'a filtré concernant l'état de santé de Kate Middleton, la belle-fille du roi, elle aussi atteinte d'un cancer.
Les précisions d'Anna Jojard. Merci beaucoup Anna. L'événement de la matinée à suivre évidemment sur RMC, c'est le départ de la femme olympique ce matin du port du Pirée à Athènes à bord du voilier le Belém. Départ prévu 10h pour un voyage de 12 jours direction Marseille où le nageur Florent Manaudou sera le premier relayeur. On va y revenir avec Amélie Oudéa-Castéra à 8h40 ce matin. La ministre des Sports sera notre invité, puisqu'on parle justement, tiens, des Jeux Olympiques. Les athlètes palestiniens devraient être 6 à 8 au JO de Paris, où le Comité international olympique les invitera s'ils ne parviennent pas à se qualifier. Voilà ce qu'indique son président Thomas Barr dans un entretien à l'AFP.
En football, peut-être un soir de sacre pour le PSG.
Les Parisiens ont besoin d'une victoire contre le Havre pour devenir champion de France pour la 12e fois. PSG, le Havre à suivre 21h ce soir. Hier, en ouverture de la 31e journée, Montpellier et Nantes se sont séparés sur un match nul, un partout. Tout à l'heure, en Ligue 2, Saint-Etienne à l'occasion de se rapprocher de la Ligue 1 face à Caen à 15h. Match qui sera sans doute suivi par quelques supporters lyonnais qui ont hâte de revivre les derbies enflammés face à l'ennemi stéphanois, Edouard Jay.
Oui, mais il faut d'abord déminer un peu le débat et c'est Grégory Cuiron, chef lyonnais réputé, qui le fait.
J'ai pas dit que j'étais supporter de Saint-Etienne, j'ai dit que j'étais pour qu'il monte. C'est pas la même chose.
Car qui dit monter dit derby et le vrai, pas celui qui oppose depuis 2 ans Lyon à Clermont, l'autre ville de la région, évacue David Louis, restaurateur à Vaux-en-Velin.
Ouais, Lyon-Clermont, mais ça fait loin, ça fait très très loin. Hein. S'il vous plaît, les Stéphanois, remontez vite, là, parce que des Lyon-Clermont, c'est pas terrible. Hein.
À tel point que David Louis est carrément en manque.
Énormément. Il y a une rivalité, des petites moqueries, des petits pics qu'on aime bien.
Vous pouvez préciser, Grégory Cuiron ?
Une saison sans derby, c'est pas la même chose. L'intensité des derbys, la saveur quand on gagne un derby n'est pas la même que quand on gagne un autre match.
Car les afters durent dans ce cas très... très longtemps, du match aller au match retour.
Le fait de pouvoir se chambrer, parce qu'on a toujours des potes supporters stéphanois, hein, on choisit pas ses amis.
Des amis qu'une victoire des Verts face à Caen cet après-midi rapprocherait un peu plus d'un 125e épisode, tant attendu.
Et puis 2, 20, 39, 40, 47, et les étoiles, 8 et 4, vous savez de quoi je veux parler.
Ah, j'ai une petite idée, oui.
Ce sont les numéros qu'il fallait cocher pour pouvoir empocher la cagnotte de l'euro-million et espérer changer de vie.
Au revoir, président.
Qu'est-ce que c'est que ce truc,
parce que oui, bah, il y avait de quoi changer de vie. 151 millions d'euros à gagner. Et je vous annonce ce matin que personne ne l'a emporté.
Et vous êtes contente.
Mais bien sûr, 166 millions d'euros seront donc remis en jeu mardi prochain. Je voulais voilà, vous en parler, puisqu'après tout, on a le droit de rêver.
Oui, et il vaut mieux, effectivement. Quand on est réveillé tôt comme ça le samedi matin, encore plus peut-être le dimanche matin, on a le droit de rêver. Vous avez raison. Donc objectif mardi, hein, si j'ai bien compris.
Bah oui, non mais je voudrais qu'on joue ensemble.
Oui,
et on partage après ?
Ah.
Vous connaissez bien le sûr, problème, Peggy. Vous connaissez le problème d'Anaïs.
C'est quoi ?
Bah, elle veut gagner, mais elle
joue jamais.
Elle joue pas.
Voilà. On va pas s'en sortir.
Mais elle oublie pas de rêver.
Et vous n'oubliez pas de revenir à
8h30? Bah, non, quand
allez,
même.
C'est promis. À tout à l'heure.
Parce que c'est vous.
7h39 sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon réveil avec RMC, il est 7h42.
RMC.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Michel Deneken, président de l'Université de Strasbourg, co-signataire d'une tribune dans le quotidien Le Monde. Les universités ne doivent pas être instrumentalisées à des fins politiques.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Évacuation dans le calme, rue Saint-Guillaume hier à Paris, blocage des étudiants pro-Palestine levé après cet accord avec la direction de Sciences Po qui s'engage à ouvrir un débat au sein de l'établissement d'ici jeudi, à suspendre également les procédures disciplinaires lancées contre certains de ces manifestants. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ? Est-ce que la direction de Sciences Po a raison de répondre, peut-être même de céder à certaines revendications de ses étudiants ?
Écoutez, je ne me permettrai pas de juger la direction de Sciences Po, qui est un établissement très particulier en France. Je dirais que les universités françaises, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire ou lire ou entendre, ne sont pas à feu et à sang. On voit bien que même à Sciences Po Paris, c'est un tout petit groupe qui bloque. Vous savez, il suffit de 40 étudiants pour bloquer une université comme la mienne. Donc, en ce qui me concerne...
On va y venir à la situation dans les universités, mais vous, président d'université, comment auriez-vous réagi ? Parce que certes, petit groupe de manifestants, mais qui a tout de même bloqué un établissement universitaire pendant au moins toute une journée hier.
Et bien entendu, en tout cas à Strasbourg, nous avons la politique de occupation zéro, donc je suis tout à fait sur la même ligne que la direction de Sciences Po. Quant au fait d'instaurer un débat, c'est pas céder aux étudiants, c'est le contraire, c'est faire notre boulot. C'est ce qu'on dit dans notre tribune. Nous devons, comme président et présidente, être vigilants, parce que notre mission, c'est de laisser le débat contradictoire s'instaurer, mais dans la paix, dans l'échange académique, mais pas dans la vocifération ou la récupération politique.
C'est le rôle des universités, effectivement, de débattre de ce que les étudiants veulent débattre avec les étudiants, avec vous-même d'ailleurs, président d'université. Il y a une autre revendication qui interpelle. Ces manifestants voudraient que Sciences Po cesse ses partenariats avec les universités, les entreprises ou les associations en lien avec Israël. Est-ce que cette revendication est légitime, Michel Deneken ?
Elle est parfaitement illégitime, elle est idéologique. Que cela plaise ou non, Israël est une démocratie. Que son patron actuellement ne soit pas le meilleur chef de gouvernement, on le sait. Mais boycotter Israël et surtout refuser des relations académiques avec des universités ou des entreprises israéliennes, c'est l'inverse d'une université. Nous devons rester ouverts, justement, nous devons rester ouverts. Dans tous les sens du terme.
Les étudiants que vous rencontrez tous les jours sur votre campus à Strasbourg, que disent-ils de la situation à Gaza ?
Bah écoutez, je suis désolé de dire que beaucoup d'étudiants ne se sentent guère concernés. On a à Strasbourg, comme dans toutes les universités, des petits groupes extrêmement virulents, dont je dis, et j'assume ce que je dis, qu'ils sont politiquement, généralement, complètement instrumentalisés. Ce sont souvent des jeunes qui ne connaissent pas la situation, la complexité de Gaza. Et on le sait, c'est dans la rhétorique de certains hommes politiques, qu'on fait aujourd'hui du Palestinien le damné de la terre d'il y a 100 ans pour les marxistes, c'est-à-dire le Palestinien est un symbole.
Ils sont instrumentalisés par qui, Michel Denneken?
Par des partis politiques, on entend Denneken. Bien... bah écoutez, on a entendu M. Mélenchon insulter un président d'université, le traité d'Eichmann. C'est quand même gravissime. Bah écoutez, c'est quand même gravissime.
Jean-Luc Mélenchon qui, sur Twitter, hier, saluait cette manifestation devant les locaux de Sciences Po. Il appelait tous ceux qui le veulent à venir s'interposer entre ces étudiants et les CRS, si vous voulez agir contre le génocide à Gaza, je le cite, « ceux qui résistent sont l'honneur de la France sous les yeux du monde ».
Oui, cette logorée ne m'impressionne pas. On sait que M. Mélenchon manie un verbe approximatif et violent. D'ailleurs, il récolte ce qu'il a semé à Sciences Po. Donc ça c'est clair, on ne peut pas prétendre être un homme politique, vouloir du débat et allumer des incendies et venir ensuite en grand pompier. Ça je crois que, excusez-moi, c'est la tentation de certains hommes politiques d'allumer le feu dans les universités. Mais quand est-ce que ces hommes politiques ont vraiment instauré un vrai débat avec leurs contradicteurs?
En ce qui concerne l'honneur de la France, Michel Denneken, dans votre tribune, vous dites l'exact inverse. Les universités ne doivent pas être instrumentalisées. Il y va également de l'image de la France dans le monde. Ça veut dire qu'à vos yeux, ce qui s'est passé à Sciences Po abîme l'image de la France?
Oui, en tout cas, ça abîme l'image de Sciences Po, dont il faudra peut-être s'interroger un jour de la pertinence. Parce que cette institution, c'est infinitésimal le nombre d'étudiants par rapport aux centaines de milliers d'étudiants qu'on a en France, mais la France a un rapport très particulier à Sciences Po Paris, et ceux qui y sont le savent. Et donc,
on a l'image de Sciences Po Paris Fièvre, comme une école de prestige, d'élite universitaire. Ce n'est pas le cas?
Ah, je ne dis pas cela. C'est une école réputée, reconnue, mais évidemment, ce qui s'y passe laisse peut-être un espace pour la réflexion quant à son avenir et à sa gestion.
C'est-à-dire, Michel Denneken?
Ça veut dire qu'on a quand même eu des crises aussi à la tête de Sciences Po, hein, des directions qui ont démissionné, une certaine opacité quand même dans les nominations, je dirais. C'est ce que nous percevons, nous, comme présidents d'université. Nous sommes élus par un conseil d'administration, on fait une campagne électorale. Sciences Po, c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc, et je pense que c'est un prisme déformant, parce que encore une fois, à part des groupuscules et des tags... nombreux, certes.
On entend en tout cas que vous n'avez pas envie que l'image des universités françaises soit réduite à ce qui peut se passer à Sciences Po. Vous nous confirmez ce matin, Michel Denneken, qu'il n'y a quasiment aucun risque que ce qui se passe, pour le coup, là, dans de vraies universités, si j'ose dire, américaines, Columbia, Harvard, Yale, aucun risque que les choses se passent de la même façon chez nous en France.
Il peut toujours y avoir des moments de bascule, de crispation, une étincelle quelque part, une phrase maladroite de quelqu'un, mais nous ne sentons pas sur le terrain, y compris avec les renseignements territoriaux, des mouvements qui iraient vers ce qui se passe aux États-Unis.
Et on entend que vous y veillerez, Michel Denneken, président de l'Université de Strasbourg. Je rappelle cette tribune dans le quotidien Le Monde. Les universités ne doivent pas être instrumentalisées à des fins politiques. Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin avec nous sur RMC. Il est 8h-10. Nicolas Poincaré va vous raconter l'actu dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Bienvenue sur RMC, on se réveille au son du groupe mythique de rap marseillais qui pour la première fois, figurez-vous, va se produire au Vélodrome. Et nous verrons tout cela dans le bonus RMC, c'est dans deux minutes.
Mais d'abord, racontez-nous. Et c'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Ce matin, l'histoire de l'avenir de la France. Parlons du nombre des centenaires et des super centenaires qui explosent. C'est ce qu'a révélé une étude de l'INED publiée cette semaine. La France est le pays d'Europe où l'on vit désormais le plus vieux.
Oui, et où l'on compte surtout le plus de très très vieux. Il y avait en France 1000 centenaires il y a 50 ans. Aujourd'hui, ils sont 31 000, donc plus de 30 fois plus, et il devrait y en avoir encore deux fois plus dans une quinzaine d'années. Mais surtout, ce sont ce qu'on appelle les plus que centenaires, dont le nombre a explosé. Les plus de 105 ans étaient rarissimes il y a quelques années, et ils sont désormais 2 000. Quant aux plus de 110 ans, il n'y en avait aucun jusqu'en 1987, alors qu'en 2022, on a compté 39 décès de personnes qui avaient plus de 110 ans. C'est donc une nouvelle catégorie qui est recensée par l'INED, que l'on appelle les super centenaires.
Mais comment fait-on pour vivre jusqu'à cet âge? Quel est le profil de ces centenaires et super centenaires?
Alors, ce sont essentiellement des femmes. Sur les 39 recensées en 2022, 38 étaient des femmes. Et sur les 32 qui seraient actuellement en vie, 32 sont des femmes. Et sur les 31 000 centenaires, on compte 15% d'hommes seulement. Ces femmes ont souvent eu des parents qui ont vécu au-delà de 90 ans. La longévité semble donc héréditaire. Pour vivre très très vieux, il ne faut pas avoir été obèse, ne pas avoir abusé de l'alcool et du tabac.
Dommage.
Laurent Toussaint, qui est un spécialiste des super centenaires, a dressé un profil type des plus de 110 ans. C'est souvent une femme qui a fait un petit métier assez dur, ou bien en plein air, par exemple une agricultrice, et elle a généralement eu une alimentation saine, basée sur des produits non transformés.
Et alors, est-ce que ces centenaires, Nicolas, ont des secrets pour expliquer leur longévité?
Alors, c'est justement la question qu'un organisme américain a eu l'idée de poser directement aux centenaires du monde entier, et les résultats sont très surprenants et même très contradictoires. Ils sont par exemple 29% à dire qu'il ne faut pas suivre les conseils des diététiciens et donc manger comme on le sent, et ils sont presque autant à dire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on mange
sainement.
Et manger sainement. Et pareil sur l'alcool, 12% des centenaires pensent qu'il faut absolument s'abstenir de boire, alors qu'ils sont un peu plus nombreux, 16%, à dire le contraire. C'est-à-dire qu'il faut boire régulièrement un peu d'alcool. Et on se souvient que Jeanne Calment, qui est la doyenne officielle de l'humanité, qui est morte à 122 ans, disait qu'elle avait bu du vin toute sa vie.
Et oui.
L'étude américaine apporte aussi des réponses surprenantes sur d'autres secrets de longévité. Les centenaires qui ont été interrogés affirment que pour vivre vieux, figurez-vous qu'il faut être gentil.
Ah.
Et oui. Il faut avoir beaucoup de relations amicales.
Ah.
Et puis 9% affirment aussi que pour vivre vieux, il faut avoir la foi.
Décidément.
Donc, croire en Dieu. Et ce même organisme a fait témoigner des super centenaires, des femmes, qui disent que leur secret, c'est aussi de ne pas avoir été mariée. Une Italienne de 117 ans raconte qu'elle n'aurait jamais atteint cet âge si, très jeune, elle n'avait pas eu l'idée de jeter son mari. Et puis souvenez-vous que la dernière doyenne de l'humanité française, Lucie Randon, qui est morte en 2023 à 118 ans, eh bien, elle ne disait pas le contraire, puisque elle s'appelait dans la vie Sœur André, elle était religieuse.
Et effectivement, avec tout ça, je ne sais pas si je vais vivre très vieux, moi.
Et on ne sait pas non plus s'il faut le souhaiter, hein, s'il faut le rêver, parce que là, on en parle légèrement, mais enfin, le très, très, très grand âge, ce n'est pas forcément facile.
Mais vous n'avez pas tort, n'est-ce pas, Peggy? Petit témoignage,
vous êtes mal barré, en fait, c'est
oui,
ça, Mathieu?
Oui, c'est vrai, oui. Autant que vous, je crois.
Non, moi, je vais vivre vieille.
Oui, bien sûr.
Je remplis tous les critères.
Nicolas Poincaré, racontez-nous, à retrouver en podcast. Il est 8h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec IAM, Peggy, bientôt au Vélodrome.
Et c'est une première pour le groupe. IAM sera en concert au Stade Vélodrome de Marseille. Notez bien, le 28 juin 2025, un mois après Jul. C'est au tour du groupe marseillais après 35 ans de carrière. Akhenaton, Shuriken, Kéops, Imhotep seront pour la première fois sur la scène du stade avec de nombreux invités, mais qui ne sont pas encore dévoilés. Alors le groupe vient de terminer sa tournée HH History Tour. C'était le 20 avril dernier au Moulin à Marseille. HH History Tour, c'est le 12e album studio d'IAM sorti en février dernier pour célébrer les 50 ans du hip-hop. Je sais pas si vous imaginez, un demi-siècle déjà pour ça.
Déjà?
Déjà, oui, comme vous dites. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Le premier album du groupe, je sais pas si vous vous souvenez, c'était 1991, de la planète Mars. Et Akhenaton dit en fait qu'on lui a tellement régulièrement demandé, dit à quand le Vélodrome en tant que fan de l'OM.
Eh ben oui.
Et ben Shuriken lui a dit, bah, c'est aujourd'hui un passage obligé. Au moins une fois dans leur carrière, ça va se faire. Les fans pourront donc du coup aller voir IAM en concert. 67 000 spectateurs attendus. Je sais pas si vous imaginez, pour revivre en live les plus grands tubes du groupe. Un spectacle avec un dispositif scénique hors du commun prévu. Plein d'invités de surprise. Un événement à vivre le 28 juin 2025. Et les places sont en vente depuis hier.
devenir adulte avec les infos comme mentor. C'est éclater les tranches de ce.
Vous avez dansé sur IAM, vous, hein?
Oh que oui. On danse encore d'ailleurs.
On danse encore sur IAM, évidemment.
On dit que des blanches une neige et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent.
Avec des textes toujours engagés.
Et il y en a pour tous les goûts le matin sur RMC. Justice tout à l'heure. IAM juste avant 8h. Voilà la recette magique pour vous réveiller. La matinale week-end se poursuit et bientôt vos infos de 8h.
Déserter les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
RMC,
la matinale week-end.